Patrick, Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Le Monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition des 19h30, temps universel du mardi 14 janvier 2020. John Linden pour vous présenter cette édition, tout d'abord les titres. Au Burkina Faso, les autorités annoncent l'arrestation de 4 membres suspects d'une cellule du Front de Libération du Massina. Le groupe État islamique revendique l'attaque de Shinagodar au Niger. Des tirs nourris entendus ce mardi à Khartoum dans 2 bases des services de sécurité soudanais. Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a quitté Moscou sans signer la trêve. Le président turc menace de lui faire payer le prix d'une attaque sur Tripoli. Ici aux États-Unis, la Chambre vote demain pour transmettre au Sénat les actes d'accusation du président Donald Trump. Et puis, ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Le groupe État islamique a revendiqué hier l'attaque des Shinagodar dans l'ouest du Niger qui a fait 89 morts. Le même groupe avait revendiqué l'attaque de la base d'Inades qui avait fait 71 morts. Les soldats du califat ont attaqué une base de l'armée nigérienne dans le village de Shinagodar jeudi 9 janvier. Les combats ont duré plusieurs heures, affirme le communiqué du groupe État islamique dans le Grand Sahara qui assure avoir tué 100 éléments de l'armée nigérienne. Ce coup de filet de la police des militants islamistes au Burkina Faso, 4 combattants terroristes membres d'une cellule du Front de Libération du Massina, dont un ayant pris part à l'enlèvement de 3 Burkinabés et d'un Chinois en novembre dernier, ont été interpellés. Le point avec Bagassi Koura.
Les 4 hommes sont, d'après la police burkinabé, des combattants terroristes et ont été interpellés la semaine dernière à Galgouli, dans le Pony, province du Sud-Ouest, par les services de la police. Les sources sécuritaires précisent que le 23 novembre, l'un d'entre eux avait pris part à l'enlèvement de l'équipe technique de la société Huawei à Sidéradougou, dans la région des Cascades, dans l'ouest du Burkina. La police souligne que le mis en cause est membre d'une cellule du Front de Libération du Massina et de nationalité burkinabé. Le 23 novembre, 4 membres, dont 3 Burkinabés et un Chinois, d'une équipe de prestataires pour le déploiement du projet Backbone National des Télécommunications, avaient été enlevés par un groupe armé dans la région des Cascades, près de la frontière ivoirienne. 48 heures après cet enlèvement, l'action conjuguée des forces de défense et de sécurité, combinée à la collaboration citoyenne des populations, avait permis de retrouver, selon la police, les otages sains et saufs.
Les dirigeants des pays du G5 Sahel et la France ont annoncé hier la mise en place d'un nouveau cadre opérationnel avec des priorités sur la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Concrètement, le nouveau cadre prendra la forme et le nom d'une coalition pour le Sahel, rassemblant les pays du G5 Sahel, la France, les partenaires déjà engagés. La coalition militaire aura un commandement conjoint entre la force Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel. Dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 18 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans des combats entre l'armée et une milice à proximité d'une mine d'or. Plusieurs enfants sont encore portés disparus, d'après l'abbé Célestin Kidjana, curé de Salamabila. Paniqués, des centaines d'élèves se sont enfuis au début des combats samedi à la sortie des classes. 18 corps, dont 8 enfants, ont été enterrés, selon l'homme d'église dans la province du Maniema. Moscou a annoncé que les négociations entre les 2 chefs rivaux libyens ont abouti au prolongement indéfini du cessez-le-feu. Le maréchal Haftar n'a pas signé l'accord dans l'immédiat, tandis que Fayez al-Sarraj l'a fait lundi soir dans la capitale russe. Nathalie Barche.
Les rivaux libyens ne se sont pas rencontrés lundi lors des pourparlers à Moscou, mais ont négocié via les ministres russes et turcs de la défense et des affaires étrangères. Le maréchal Haftar a besoin de 2 jours supplémentaires pour étudier le document et en discuter avec des tribus alliées, indique Moscou. Le principal résultat de la réunion a été la conclusion d'un accord de principe entre les belligérants pour maintenir et prolonger indéfiniment la cessation des hostilités, a affirmé le ministère russe de la Défense. Et le chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, a assuré poursuivre les efforts avec Ankara en vue d'un accord formel. Une trêve est en vigueur depuis dimanche à la suite d'une initiative le 8 janvier du président russe Vladimir Poutine et de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Mais ces modalités devaient être signées formellement à Moscou.
Environ 2000 étudiants ont manifesté aujourd'hui à Alger pour le 47e mardi consécutif contre le régime. Notre marche est pacifique et nos revendications sont légitimes, ont scandé les étudiants, rejoints par de nombreux enseignants et de simples citoyens, en fustigeant le nouveau président Abdelmadjid Tebboune, venu, selon les enseignants, par la fraude et placé par les militaires. Pour la première fois depuis le début des manifestations étudiantines, une plateforme en 14 points représentant les principales revendications du Irak a été dévoilée par les protestataires. Des tirs nourris ont été entendus ce mardi à Khartoum dans deux bases des services de sécurité soudanais. Des employés ont rejeté des compensations financières dans le cadre d'un plan de restructuration. Abdourahmane Dia.
Le premier ministre Abdallah Hamdok a assuré que la situation était sous contrôle. Les incidents se sont produits sur une base du quartier de Riyad, dans le nord de la capitale, et sur la base de Khartoum Nord, en banlieue de la capitale. Ces deux bases hébergent l'ex-service national de renseignement et de sécurité soudanais, de redoutables services sous le règne du président déchu Omar el-Béchir, rebaptisé il y a quelques mois le service des renseignements généraux. L'aéroport a été fermé pour 5 heures pour des raisons de sécurité, a déclaré le porte-parole de l'aviation civile. Selon le porte-parole du gouvernement, Faisal Mohamed Saleh, les soldats ont rejeté la pension pour leur retraite et que certains étaient sortis dans la rue où ils ont installé des barricades et tiré en l'air. Des convois de soldats et paramilitaires des forces de soutien rapide ont été envoyés vers ces bases et par la suite, l'intensité des tirs a baissé.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a réuni ses troupes en vue de la transmission au Sénat de l'acte d'accusation de Donald Trump. La Chambre va voter demain en plénière. Les précisions avec Irénée Herman Umbo.
L'élu de Californie a entamé dans la matinée des discussions à huis clos avec les élus démocrates pour fixer les modalités et le calendrier de cette procédure historique. Nancy Pelosi a annoncé qu'un vote aura lieu demain en séance plénière pour officialiser l'envoi au Sénat des chefs d'accusation retenus contre le président républicain. Donald Trump est accusé d'abus de pouvoir et d'obstruction au travail du Congrès. Une fois cette résolution adoptée, plus rien n'empêchera l'ouverture du procès du président, le troisième de l'histoire des États-Unis. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, ne fait aucun mystère de son intention d'acquitter le locataire de la Maison-Blanche. Il a déclaré hier que la Chambre a fait suffisamment de mal. Le Sénat est prêt à assumer ses responsabilités.
La Russie a dénoncé mardi les actions irréfléchies et la décision profondément décevante des Européens visant à déclencher le processus de règlement des différends prévus par l'accord international sur le nucléaire iranien datant de 2015. Nous n'excluons pas que les actions irréfléchies des Européens puissent conduire à une nouvelle escalade autour de l'accord sur le nucléaire iranien et rendent impossible sa mise en œuvre dans le cadre initialement convenu, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Moscou dit ne voir aucune raison pour une telle démarche. Les États-Unis ont imposé ce mardi des sanctions à deux sociétés accusées de continuer à utiliser de la main-d'œuvre nord-coréenne expatriée à l'étranger, malgré l'expiration d'un ultimatum de l'ONU qui veut mettre fin à cette source importante de recettes pour la Corée du Nord. Les sanctions, qui prévoient un gel des éventuels avoirs de ces compagnies aux États-Unis et leur barrent l'accès au succès au système financier américain, interviennent au moment où le rapprochement diplomatique engagé il y a 2 ans entre Washington et Pyongyang est dans l'impasse. Les États-Unis, le Japon et l'Union européenne ont adopté ce mardi une déclaration commune demandant à l'OMS, l'organisation à l'OMC, autant pour moi, l'Organisation mondiale du commerce, de restreindre davantage les subventions dont bénéficient certaines entreprises visant ainsi, sans la nommer, la Chine, La liste actuelle interdisant les subventions est insuffisante pour s'attaquer aux subventions qui entraînent des distorsions commerciales dans certaines juridictions, ont souligné les auteurs de la déclaration. Et puis les Libanais sont retournés dans la rue ce mardi pour protester contre le retard pris dans la formation d'un nouveau gouvernement et la sévère crise économique qui mine le pays au 90e jour d'un mouvement de contestation sans précédent. Sous le slogan « La semaine de la colère », les manifestants ont coupé des axes routiers à l'aide de bennes à ordures et de pneus brûlés, tandis que des colonnes de fumée étaient visibles sur plusieurs routes à travers le pays. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, c'est dans la Minute Éco avec Nanit Talani.
Le Nigeria a promulgué une nouvelle loi visant à soutenir les petites entreprises et à augmenter les recettes publiques par une hausse de la TVA qui passe de 5% à 7,5%. En vertu de la nouvelle loi, le gouvernement introduira un barème d'imposition progressif pour les PME, les entreprises générant moins de 70 000 dollars de chiffre d'affaires annuel étant exonérées de l'impôt sur les sociétés. Le gouvernement espère que la loi incitera les investissements dans les infrastructures et les marchés de capitaux. Pour les experts fiscaux, par contre, la loi cherche à taxer les entreprises ayant des activités numériques qui ont une présence significative au Nigeria et génèrent des bénéfices. Un tribunal arbitral de Londres ordonne à Djibouti de rétablir dans 2 mois le droit de l'opérateur DP World d'exploiter le terminal à conteneurs de Doralé comme indiqué dans un accord de concession de 2006 ou bien de lui payer des dommages-intérêts. Le gouvernement de Djibouti a saisi le terminal de DP World contrôlé par le gouvernement de Dubaï en février 2018 pour un différend remontant à 2012. La saisie a causé à DP World des pertes de plus d'1 milliard de dollars. Pour terminer, le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, exhorte la Banque centrale à utiliser tous ses outils pour empêcher les prêts abusifs et pour augmenter le crédit abordable, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Ce secteur est en effet l'élément vital de notre économie, a-t-il déclaré dans un discours télévisé.
Et nous voici en sport et c'est avec Bagassi Koura. Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir John, bonsoir à tous.
Le FC Barcelone a un nouvel entraîneur.
Oui, propulsé nouvel entraîneur du FC Barcelone ce lundi après l'éviction d'Ernesto Valverde. Quique Sestien a promis d'insuffler au Barça son amour du beau jeu. Mon équipe jouera bien, a-t-il assuré aujourd'hui lors de sa présentation à la presse. Vous avez tous vu que j'avais une personnalité. Ici, j'arrive dans une équipe qui joue bien depuis des années. Il n'y a que peu de choses à changer, a appuyé Setién, ex-coach du Betis Séville, où il s'est fait connaître pour son jeu léché à base de possession. Ma seule promesse, c'est que mon équipe jouera bien, a-t-il insisté, alors que c'est précisément un manque d'ambition créative que son prédécesseur Valverde s'est vu reprocher. Le contrat de Setién va jusqu'en 2022, mais comme il y a des élections l'année prochaine, il dispose d'une clause qui dit que le nouveau président élu pourra changer d'entraîneur, a précisé Bartomeu, le président du FC Barcelone.
Jordi Cruyff prend les commandes de l'Équateur.
Oui, l'entraîneur néerlandais Jordi Cruyff, fils du légendaire Johan Cruyff, a pris la tête de la sélection de l'Équateur avec pour principale mission de la qualifier pour la prochaine Coupe du monde de football en 2022 au Qatar. C'est un plaisir d'être ici, a affirmé l'ancien milieu de terrain international du FC Barcelone et de Manchester United, âgé de 45 ans, lors de sa présentation officielle lundi à Quito. La sélection sud-américaine débutera sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022 le 26 mars avec un déplacement en Argentine.
NBA ici aux États-Unis, LeBron James a été impitoyable avec les Lakers face à ses anciens cavaliers.
Oui, LeBron James a offert quasiment à lui seul la 9e victoire de rang aux Lakers, plus que jamais leader de la conférence Ouest en NBA ce lundi. Anthony Davis était encore forfait comme Rajon Rondo qui a eu une fracture à un doigt, mais cela n'a pas empêché les Lakers de disposer de Cleveland 128-99. D'autant que LeBron James n'a pas fait de sentiment face à son ancienne équipe, qui a pourtant tenu la distance en première période. L'accélération du King entre la fin du troisième quart-temps et le début du quatrième, où il a inscrit 14 de ses 31 points, a été fatal au cave.
Merci Bagassi.
Merci John.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Les dirigeants des pays du G5 Sahel et la France ont annoncé hier la mise en place d'un nouveau cadre opérationnel avec des priorités sur la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, appelée la région du Liptako. Pourquoi la priorité sur cette région? Idriss Fall adjoint Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité à Bamako.
La région du Liptako, Goma, donc les espaces frontaliers entre le Mali, le Burkina et le Niger, s'est illustré ces derniers temps comme l'épicentre de l'intensification de l'activisme des groupes qualifiés de terroristes. En réponse à cette intensification de la violence des groupes dans cette partie du Sahel, que le chef d'État français et les autres du G5 Sahel ont décidé d'accentuer leur action à ce niveau.
Le groupe État islamique dans le Grand Sahara, on sait qui est son émir, non? Abu Adnan al-Sahrawi, il est là depuis très longtemps. Pourquoi on n'arrive pas à mettre la main sur lui?
La question des leaders des groupes, elle demeure toujours, et la réflexion se poursuit à ce niveau, parce qu'en dehors de Sahraoui, il y a également la problématique de Iyad Agali, mais il y a aussi celle d'Amadou Koufa, donc, qui paraissent aujourd'hui des leaders insaisissables par les différents pays aujourd'hui qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Mais au-delà de ce leader, ce qui est important, c'est surtout le message qui est fourni par ces différents leaders-là. C'est vrai que d'un point de vue idéologique, par la symbolique sécuritaire, ça peut être un bon signal de pouvoir mettre la main sur ces leaders ou de neutraliser pour reprendre le jargon des acteurs sécuritaires. Mais le plus important, c'est aujourd'hui de pouvoir stopper l'adhésion des communautés au discours promis par ces différents leaders-là aujourd'hui.
Mais les populations, elles sont pauvres, mais aussi elles sont presque prises en otage. Elles ont peur aussi.
Oui, il y a effectivement ce sentiment de peur parce que la plupart des acteurs au sein de ces communautés qui ont dénoncé ou qui ont protesté contre l'activisme de ces groupes ont été soit enlevés, torturés ou soit assassinés. Mais il y a également le fait que ces groupes apportent une réponse concrète aux besoins de ces communautés-là, des besoins de sécurité, des besoins de protection de leur activité, de leur famille, mais également de leur communauté, mais aussi des besoins de justice qui sont aujourd'hui prise en charge par ces groupes-là.
Du côté du Burkina, on sait aussi que le Malam Ibrahim Diko n'est plus, mais apparemment son frère a pris le relais dans Ansarul Islam.
Oui, c'est ce qui est dit aujourd'hui. Ansarul Islam est dirigé par Jafar Diko, qui est le frère cadet de Malam Diko. Là, encore une fois, le leadership du groupe a changé, mais le discours n'a pas évolué. Le discours qui est promis par Malam Diko depuis 2010, avant qu'il ne crée Ansarul Islam, c'est un discours de régulation sociale, c'est un discours de rejet de la stratification sociale qui, selon lui, opprimait certains clans, certaines familles au détriment d'autres. Un discours auquel a adhéré beaucoup de gens dans la localité du Soum et plus largement dans la région du Sahel au Burkina Faso.
Est-ce que la rencontre de Pau va servir de tournant à la lutte contre le terrorisme dans le Sahel?
C'est l'espoir de toutes les populations qui croient encore à ces réponses sécuritaires-là, qui, à notre sens, est parfois indispensable, mais ne peut avoir d'effet à elle seule. Ces réponses passent par le renouveau de la gouvernance, le renouveau de la justice, mais aussi la prise de conscience que la réponse sécuritaire elle seule pourra difficilement mettre fin à cette menace.
Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité à Bamako.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la France et les pays du G5 Sahel veulent renforcer leur coopération militaire contre les attaques terroristes au Sahel. Les présidents de la région souhaitent aussi la poursuite de l'engagement militaire de la France au Sahel, alors que Paris avait demandé une clarification lors du sommet de Pau face aux critiques sur la présence française au Sahel. Comment renforcer cette coopération militaire pour venir à bout des groupes armés? Comment restaurer la confiance sur la présence militaire étrangère dans le Sahel? Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Au Mali, plusieurs centaines d'élèves se sont rassemblés devant la cité administrative, lieu de travail du gouvernement malien, pour demander la réouverture des écoles. Ces enfants sont venus de la rive droite du fleuve Niger à Bamako, plus précisément de la commune 5. Une partie des marcheurs et leurs parents ont été reçus par des membres du cabinet du Premier ministre et des conseillers du ministère de l'Éducation nationale. Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
C'est une marée humaine composée d'élèves et de parents d'élèves qui étaient en sit-in devant la cité administrative, lieu de travail du gouvernement malien.
L'étude, c'est notre avenir. Notre avenir aussi, c'est notre devenir. Notre devenir, c'est notre pouvoir aussi. Donc nous sommes des enfants, mais il faut que les Mali avancent. Nous, on a besoin de ça.
Les PV étaient en cours, quoi. Alors que nous, on était en grève la semaine passée. Donc, c'est pas normal, quoi. Bon, on va continuer, faire sortir les PV aussi.
Je dirais que le gouvernement, c'est là pour résoudre notre problème.
Nous sommes des élèves de bac. Si on part dans le set de balle là, nous, on n'a rien. On va écrire quoi?
Les enfants et leurs parents, dès leur arrivée, se sont dirigés vers la primature, sous la houlette de l'association La Voix de la Commune 5. Lamine Bagayogo, parents d'élèves.
Ils ont dit qu'ils ont tout fait pour que cette crise-là, les enseignants puissent mettre fin dans ça. Mais jusqu'à présent, ça ne l'a pas réglé. Donc quand même, ils vont prendre toutes les dispositions pour que les enfants puissent rejoindre leur classe. Bon, dans le futur, on va essayer de raconter aussi les salles des enseignants. Donc pour voir ce qu'eux aussi peuvent faire. L'avenir des enfants sont maintenant en jeu. Eux aussi, il faut qu'ils fassent tout vraiment pour s'aider quelque part pour que les enfants puissent aussi rejoindre leur classe.
À la primature, les enfants ont été riches. Des explications leur ont été données. Chaka Diara, conseiller au cabinet de la primature.
Ces négociations ont été infructueuses parce que les enseignants n'ont pas accepté ce système de calcul. Les enseignants ont estimé encore prendre le calcul sur leur statut autonome. Donc c'est à ce niveau qu'il y a un blocage. Et les conciliateurs, les chefferies traditionnelles, les notabilités ont touché les enseignants pour les faire comprendre l'état actuel du pays.
Le collectif des enseignants trouve que la proposition du gouvernement n'est pas du tout alléchante. Adama Fomba, porte-parole du syndicat des enseignants.
Les deux propositions de la partie gouvernementale n'atteignent même pas type. La partie gouvernementale est en train de dire qu'il est d'accord, que l'article 39 est clair et qu'ils sont d'accord pour l'application. La partie gouvernementale doit revoir sa copie et de revenir dans la loi, c'est-à-dire de proposer dans le sens des 20% à partir de janvier 2019 et des 9% à partir de janvier 2021. C'est tout ce que nous demandons.
En entendant un accord entre le gouvernement et le collectif des enseignants, les enfants sont obligés de rester à la maison, car aucun mot d'ordre de grève n'a été levé pour le moment. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Nigeria, l'Agence nationale pour la gestion et le contrôle des aliments et drogues alerte le public sur l'utilisation dangereuse et non approuvée des comprimés de paracétamol dans la préparation des aliments. Certains restaurants sont soupçonnés d'utiliser des comprimés de paracétamol pour bien ramollir la viande et ces plats sont vendus aux clients. Apparemment, les Nigérians consomment sans le savoir des aliments préparés avec le paracétamol. Le reportage est de Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
L'annonce de l'Agence nationale pour l'alimentation et l'administration et le contrôle des drogues. Les Nigérians consomment sans le savoir des aliments préparés avec le paracétamol. Le produit est utilisé pour cuire les haricots et la viande, en particulier dans les restaurants et même certains ménages, dans le but d'accélérer la cuisson. Confirmation de la directrice générale de l'agence, Mojisola Adeyeye.
J'ai été un peu choquée d'apprendre que les gens utilisent le paracétamol pour cuisiner. C'est incroyable! Tout est donc possible si on peut mettre le paracétamol dans notre marmite pour préparer la viande. Si quelqu'un a l'habitude d'utiliser le paracétamol pour cuisiner la viande, l'intéressé prend des produits toxiques.
Le paracétamol rend les aliments tendres, nécessitant ainsi très peu de temps de cuisson. La consommation d'aliments toxiques préparés illégalement à l'aide de comprimés de paracétamol peut entraîner de graves conséquences pour la santé. Salimatu Urakwelu, vice-présidente de la centrale des pharmaciennes d'Abuja.
The basic organ of excretion is the liver.
L'organe d'excrétion de base est le foie. Et finalement, cela va affecter les reins. Donc, nous avons deux organes qui seront touchés. Ensuite, la dose normale maximale à prendre est, par exemple, 1000 mg. Le problème personnel ne sait le nombre de comprimés d'utiliser pour cuisiner la viande en question.
Au sein de la population, les inquiétudes grandissent du fait que beaucoup n'étaient pas bien informés d'une telle pratique. Témoignage.
It's very wrong and it's... Since it's coming to public notice, I think they should...
Moi, je ne savais pas et je viens d'apprendre pour la première fois. Je mange toujours dans les restaurants, pensant que ces gens préparent leur viande normalement.
L'utilisation du paracétamol dans la cuisine est un nouveau phénomène auquel le Nigeria est confronté. En 2018, l'utilisation des sirops à la codéine avait fait des ravages dans le pays. Des milliers de jeunes étaient devenus accros. L'État avait rappelé plus de 2,5 millions de bouteilles de codéine. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Connectez-vous, téléchargez la nouvelle application VOA Afrique, disponible sur iTunes et Google Play. L'ancienne application VOA ne sera plus disponible après le 15 janvier 2020.
Ici, aux États-Unis, la Chambre des représentants du Congrès votera demain pour envoyer au Sénat les chefs d'inculpation retenus contre le président Donald Trump. Il reviendra au sénateur de décider si le chef de l'exécutif américain doit être démis de ses fonctions ou non. Reportage de Patsy Witakwazera, le récit est de Lionel Gaïma.
Face à cette menace, le président Donald Trump a décidé d'emprunter les stratégies des deux de ses prédécesseurs qui s'étaient retrouvés dans la même situation, explique le professeur Todd Belt de l'université George Washington.
Ils étaient vraiment concentrés. Le président travaille, effectue des voyages à l'étranger, il travaille pour le peuple et n'est pas distrait par cette affaire. Mais en même temps, il dit et redit que ses adversaires tentent d'annuler la volonté populaire, d'annuler une élection.
Trump a recours aux tactiques du républicain Richard Nixon, qui s'était opposé au démon du Congrès sur des enregistrements et qui l'impliquait dans le scandale de Watergate. Thomas Schwartz enseigne l'histoire présidentielle à l'Université de Vanderbilt.
Nixon a essayé de coopérer, publiant à diverses reprises des transcriptions et autres choses du genre, mais il a tenté de faire valoir que cela compromettrait la sécurité nationale. Il a fallu une décision de la Cour suprême pour donner accès aux enregistrements, y compris celui l'incriminant.
En 1974, la commission judiciaire de la Chambre, dominée par les démocrates, avait voté 3 chefs d'inculpation contre Nixon pour entrave à la justice, abus de pouvoir et obstruction du Congrès. Trump, lui, a été inculpé d'abus de pouvoir et d'obstruction du Congrès. Pas un républicain n'a voté en faveur de sa mise en accusation. Le processus était moins partisan pour les présidents Nixon et Clinton. Des dizaines de sénateurs républicains ont voté contre l'inculpation de Clinton. Des dizaines de sénateurs républicains avaient fait pression sur Nixon pour qu'il démissionne et évite ainsi d'être inculpé. À nouveau, l'historien Thomas Schwartz de l'Université Vanderbilt.
Le problème qu'avait Nixon, c'était des crises massives, particulièrement l'inflation et le chômage. La situation économique était très grave. Les dommages, l'impression que l'économie s'effondre a affecté le soutien que pouvait lui apporter le public.
Des 44 prédécesseurs de Donald Trump, 3 ont été confrontés à la procédure d'impeachment. Andrew Johnson et Bill Clinton ont été acquittés, respectivement en 1968 et en 1999. Richard Nixon a démissionné avant d'être inculpé.
Et c'est la fin de cette édition mise à nom de par Cheikh Thiro, Cedric Franklin était à la console. John Lyndon vous a présenté ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Demain est un autre jour. Bonsoir.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Bienvenue à